Raphaël, la nouvelle entente de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique ne s'appelle plus l'ALENA. Ça, c'est l'ancienne entente. C'est maintenant, ça se dit mal d'ailleurs, l'AEUMC, l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Et elle rencontre dans la résistance d'apport du nouveau congrès.
Du futur congrès des États-Unis.
Nouveau congrès.
Nouveau futur, qui a été élu la semaine dernière, il y a deux semaines en fait, et qui va entrer en fonction formellement au mois de janvier. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les États-Unis, le Canada et le Mexique se sont entendus. Mais quand on regarde au niveau des États-Unis, c'est pas assez que l'administration Trump ait donné son aval, il faut que le congrès donne son accord également. Et là, ce qui est sorti publiquement au courant des dernières heures, c'est que tu as plusieurs membres démocrates du Congrès qui s'élèvent contre ce que jugent comme étant le manque de protection environnementale et de normes du travail pour les travailleurs mexicains. Autrement dit, ils trouvent que la lutte au « cheap labor » en bon français n'est pas assez forte dans ce nouvel accord 2.0. Et de l'autre côté, simultanément, tu as des élus républicains qui, eux, s'élèvent contre des clauses qui offrent des protections spéciales pour les travailleurs homosexuels, des clauses qui avaient été demandées, en fait, par le gouvernement Trudeau, donc le gouvernement canadien. Et en plus de ça, et ça, c'est de ce côté-ci de la frontière, je ne sais pas si tu as vu hier, mais il y avait une manifestation organisée à Montréal même par des producteurs laitiers qui, eux, s'opposent à l'ouverture du marché laitier aux Américains contenus dans l'accord. Autrement dit, ça ne fait pas juste des heureux, ce nouvel accord-là, et au niveau
américain... On n'a qu'à regarder le temps que ça a pris pour en arriver à un accord. Ça a été plus vite avec le Mexique, mais avec le Canada, évidemment, c'était interminable jusqu'à temps que finalement, on arrive à cet accord-là.
Ça aura pris plus d'un an pour renégocier, et on n'est peut-être même pas fini. On n'est peut-être même pas encore fini si ça devait, encore une fois, trouver de la résistance au Congrès. Il faudra voir. Donc, bref, le texte va être soumis formellement au Congrès à la fin du mois. Ça serait encore surprenant qu'il soit rejeté, mais on va continuer à suivre ça.
Alors, la saga du dépouillement des votes, un à un, manuellement, est maintenant terminée en Floride. Les deux candidats démocrates, candidats au poste de gouverneur et de sénateur, ont perdu.
Absolument. Donc, c'est chose faite et ça aurait été extraordinairement serré. Donc, on a concédé, la saga est terminée. Je te parle en parlant de démocrates qui, peut-être, vont connaître une défaite. Là, on parle de quelque chose d'absolument extraordinaire qui est tombé dans la dernière heure. On se parlait du congrès il y a un instant. Nancy Pelosi, Paul, la leader démocrate de la Chambre des représentants, est en train de faire face à une tentative de mutinerie. Pourquoi? Parce qu'elle est vue comme étant politiquement toxique par son propre parti à l'échelle nationale. Et ce, malgré le fait qu'elle vienne conduire en partie son parti, le Parti démocrate, à sa meilleure victoire à la Chambre des représentants en près de 50 ans. Mais pendant la campagne de 2018, il y a eu des dizaines de candidats démocrates à la grandeur du pays qui ont promis, s'ils étaient élus, de ne pas appuyer Nancy Pelosi comme présidente de la Chambre si les démocrates reprenaient la majorité.
Et bien, il faut dire qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle était leader de la Chambre à l'époque de la présidence de George W. Bush, qui, avec un certain sourire, avait dit qu'il craignait Nancy Pelosi.
Absolument.
C'était pas de tout repos entre le président Bush, républicain, et la leader de la Chambre, démocrate, Mme Pelosi.
Juste pour renforcer ce que tu viens de dire, Paul, ça fait 16 ans, presque jour pour jour, c'est en novembre 2002 que Mme Pelosi a été choisie par son caucus pour les mener à la Chambre. Et en 2010, elle a conduit les démocrates à leur pire raclée en près de 75 ans. Et après ça, tout le monde s'attendait à ce qu'elle parte. Elle s'est accrochée. Ça fait 8 ans qu'elle s'accroche. Il y en a beaucoup qui veulent qu'elle parte, mais elle refuse. Et là, ce qui est intéressant, qui est tombé aujourd'hui, c'est que tu as une lettre signée par 15 démocrates élus disant qu'ils ne vont pas voter pour elle comme présidente de la Chambre si tous les votes dépouillés sont comptés de la façon...
Les démocrates peuvent se chicaner entre eux.
C'est ça que ça va montrer.
C'est ça,
donc, tu pourrais avoir carrément une révolte sur le plancher de la Chambre au tout début du premier congrès.
Et le bal est reparti entre CNN et la Maison-Blanche.
Mais oui, écoute, après avoir été ordonné de remettre l'accréditation au journaliste Jim Acosta de CNN, avec qui, on va s'en rappeler, évidemment, Trump avait eu une confrontation spectaculaire au lendemain des élections mi-mandat. Mais là, tu as la Maison-Blanche qui menace à nouveau de lui retirer sa passe s'il ne se comporte pas correctement. Et CNN, de son côté, menace la Maison-Blanche de la reconduire devant les tribunaux. Autrement dit, ce qu'on a, c'est encore une fois les deux qui jouent pour leurs bases respectives. D'un côté, les anti-Trump qui s'abreuvent à CNN. De l'autre côté, les anti-CNN qui s'abreuvent aux propos.
Mais imagine la situation à Ottawa, Raphaël. S'il fallait, c'est pas dans la nature de M. Trudeau, mais s'il fallait qu'il dise ça, vous serez accrédité ou non en fonction de votre comportement.
S'il fallait.
Mais ouais.
Il nous reste quelques secondes. J'avais tellement de stock pour toi aujourd'hui, Paul, qu'il y a un sujet dont je voulais te parler qui concerne en fait la réaction sur les médias sociaux de certains des propos du président Trump. Je t'invite à écouter Mathieu Roy tantôt. On s'en est parlé avant.
Ah oui, Mathieu?
Ça va être fascinant et très drôle.
Alors, on va écouter ça à 16h50 avec Mathieu Roy. Merci, Raphaël, et à demain.